Mais bon, est-ce qu'on pourrait se donner un temps, hein, pour échanger, non plus sur le texte lui-même qu'on peut faire, mais sur notre pratique des groupes, hein, et je ne sais pas si Luce, comment tu exprimer ça
Je peux exprimer que quand il y a eu la nouvelle de se rencontrer, on s'était très vite dit la question, ben, pourquoi on va tous se retrouver, autour de quoi on va se retrouver, pourquoi on se rassemble. Et la proposition, c'est qu'à un moment donné, on peut saturer un peu d'un enseignement et comment. Puisque l'heure va vite passer, est-ce qu'après on peut apprendre un temps vivant qui nous rapproche à nous ici présents,
Entre
si
nous.
on a des questionnements ou
Ouais.
des choses à échanger,
Alors,
à dire ensemble?
concrètement, matériellement, quels sont les... Surtout, je pense à Montpellier, c'est vos horaires de départ.
Et on peut faire ça à table, non?
Ou
Oui,
après, oh non,
oui.
à table, ça va être
Non,
difficile.
non,
c'est
ça prend pas
difficile.
Table.
Non, il faut vraiment...
Après, je ne sais pas si on pourra aller à table parce qu'on est trop nombreux.
Au
Non, non.
café? Après le repas.
Après le repas, voilà.
T'as de la place.
Après le repas?
Hein? Après le repas? Ouais.
Vous pouvez repartir à quelle heure?
Je me sens attaquée sur la droite.
Bon, ben alors c'est ouvert, ben on fait ça. Après le repas, après le repas, on fait un petit moment le café, pause et on prend l'air, et puis on se retrouve ici pour échanger là-dessus. Hein?
Voilà,
t'as le bien,
Pour
ça.
clôturer la journée.
Ben
Hein? Bon, c'est parfait.
Feedback.
Mais il y avait même une proposition que moi je me permets, hein, puisque ce qui se dit dans les couloirs, moi je le dis ici. Donc la proposition c'était qu'en fait, des fois on finissait les journées bib, et puis c'est quand même beaucoup d'attention intellectuelle. Et qu'il y en avait qui éprouvaient vraiment un silence total, même 24 heures sans plus voir personne pour assimiler, et que le fait d'y intégrer le corps, ça permet de poser ça, puis d'être bien et de finir, de clôturer. Donc il paraît qu'ici, il y a quelqu'un qui sait bien le faire et qui pourrait éventuellement nous aider à finir la journée ensemble de cette manière, pour ceux qui veulent, bien sûr.
Comme on l'a commencé.
Exactement,
oui.
comme elle a été commencée. Et de finir avec la
Ça fait du bien.
Comment tu le sens?
Bon, avec le plaisir.
Avec plaisir. Mais là, tel qu'on a fait ce matin, ça va pas être possible.
Assez nombreux.
Trop nombreux. Donc
Mais
il
ça
faut.
va pas intéresser tout le monde.
Dans l'herbe.
Ah ben si, ça
De
serait pour faire
dehors,
une
c'est pas
action.
possible.
Une action de grâce.
Non,
Une action.
pour ceux qui ont envie.
Oui,
bien sûr.
Ben oui. Je sais pas qui a envie.
Mais c'est non, ce qui nous importait, Cathy, ce qui nous importait, c'est que tu aies envie.
Enfin, plutôt une action de méditation. D'accord.
Il y a peut-être des ateliers zen qui peuvent se mettre à côté.
On peut faire
quelque chose.
Hein?
Comme ça permettra.
Il y en a qui font de la méditation zen.
Quelque chose sur la chaise.
Oui.
Sur la chaise.
Un
petit quart d'heure.
Ça aide à se recentrer.
Alléluia.
Bon, on a une demi-heure pour Jésus.
On a une demi-heure pour
Jésus.
Mais par rapport au millénaire que nous.
Trois quarts d'heure.
Une demi-heure ou trois quarts d'heure, ça n'a pas changé grand-chose. Hein.
Il est midi 10, on peut dire.
Bah voilà, on va se laisser guider. Puis on s'arrêtera. Quand les contraintes.
On va se laisser guider.
Donc,
on
en était à cette situation très complexe du judaïsme avant la venue de Jésus, avec un grand questionnement sur l'avenir. Hein, l'avenir et sur ces, pour revenir au thème du peuple, qu'est-ce qui compose le peuple? Et surtout, le peuple est un peuple élu, le peuple juif est un peuple élu, et les prophètes annoncent une universalisation. Universalisation, c'est que tous les peuples vont se réunir. Dans les prophéties, on ne l'a pas lu, hein, et dans les prophéties, il y a cet aspect où tous les peuples vont se rassembler hein, autour de Jérusalem, Jérusalem céleste, ça va, donc ça a une dimension symbolique, la terre prend une dimension symbolique, le temple prend une dimension symbolique, et les peuples aussi, hein, c'est l'union de tous les hommes, de l'humanité entière. Donc il y a ce... Ça, c'est dans les textes des prophètes, hein, des prophètes les plus anciens, enfin les plus proches de nous. Et donc, grand questionnement, hein, grande incertitude, grand questionnement, en même temps avec une religion extrêmement structurée par la loi. Hein, parce que après ce retour, que... Étant donné que la non-application de la loi, que l'injustice ont provoqué toutes ces catastrophes, eh ben, il y a une sorte de conversion qui s'est produite en disant il faut appliquer la loi. Hein, il faut appliquer la loi, et donc il va y avoir des tenants d'une application assez forte, assez rigoureuse de la loi portée par les pharisiens, justement. Mais arrive ce Jésus. Arrive ce Jésus qui, enfin, alors arrive. Comme ça. Les textes. Il y a quatre textes qui vont parler de la vie de Jésus, ce qu'on appelle les quatre évangiles, avec quatre auteurs différents. Et chaque auteur avoir son style propre et puis son regard spécifique propre. Alors, celui de Matthieu étant plutôt très dans la ligne du judaïsme, celui de Luc, qui a une culture grecque beaucoup plus large, va davantage, à la fois quand même sur le judaïsme, mais orienté vers l'humanité entière. Marc, alors là, c'est beaucoup plus cerné. Marc, c'est l'évangile le plus court, mais où il y a les actes, les paroles. Les paroles de Jésus. Et puis Jean, avec Jean qui est le quatrième évangile, qui lui alors va en faire une lecture extrêmement symbolique, extrêmement forte, tout en étant très très près des faits et gestes, mais va en donner un sens symbolique extrêmement large. Ça, c'est le dernier évangéliste, Jean. Bon, donc, comment ça se passe, au dire de ces auteurs, comment s'est passée l'arrivée de Jésus. Alors, le Matthieu, qui est le premier, va faire une généalogie. La généalogie de Jésus, et il va faire reprendre toute la Bible. Hein, il va dire Abraham a donné naissance. Les généalogies ayant une très très grande place dans la Bible. Hein, et quand il y a une généalogie, ça veut dire qu'il y a il place des généalogies au moment des ruptures. Les ruptures, il y a différentes ruptures hein, dans la Bible, il y a l'Exode, la Babylone. Et entre les deux, ils mettent une généalogie. C'est pour montrer la continuité des choses. Il y a à la fois des ruptures très fortes, mais dans ces ruptures sont dans une continuité. Donc, Matthieu va présenter la généalogie de Jésus. Et donc, bon, qui est une généalogie, forcément, on n'a aucune preuve scientifique que ce soit une généalogie réelle, surtout qu'il fait 3 fois 14 générations, et 3 fois, c'est les 3 époques du judaïsme qu'on a vu, et pour chaque époque, 14 fois, 14 générations. Vous voyez que ça, c'est dans la culture juive, c'est extrêmement symbolique. Mais il va dire, Matthieu, assez vite, qu'il est né pour... Oui, la fin de la généalogie, il dit, elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Vous voyez, on avait... toujours ce problème du peuple hein, qui est amené à être pérennisé, hein, mais il y a ce péché. Alors ce péché qui a provoqué Babylone, mais cette alliance avec la loi, on constate que ce péché revient, que les injustices sont encore. Malgré la loi, on pourrait dire, ah ben, on applique la loi, on est juste, on vient juste. Alors, les prophètes ont dit, il y aura bien un cœur nouveau. Il y aura bien un cœur nouveau, mais en attendant, ce cœur nouveau, je ne sais pas si vous le sentez, mais il n'est pas toujours là quand même. Les prophètes, lorsqu'ils ont mis ça, c'est en perspective, ce qu'on appelle, ce sont des discours eschatologiques qui se projettent dans la fin des temps, hein, qui est la perspective du temps. Mais nous qui sommes encore dans le temps, on voit bien que ce n'est pas réalisé. Hein. Et donc, apparaît ce Jésus qui va sauver le peuple de ses péchés. Voilà, il pose ça d'emblée. Hein. Donc, vous voyez que c'est très en lien avec tout ce qu'on a dit précédemment. Hein. Et alors, va apparaître un certain Jean-Baptiste qui est un homme qui va avoir une très grande austérité, qui est habillé de peau de chameau, qui vit dans le désert, qui se nourrit de sauterelles, et qui, très visiblement, est issu de ce courant essénien, hein, de ce courant hautement spirituel. Et il va annoncer un événement. Un événement très, très, très important. Et face à cet événement, il va dire au peuple, changez de cœur, convertissez-vous. Convertissez-vous parce que le royaume promis, va arriver. Mais pour que ce royaume prenne figure, il faut vous changer. Parce que ce royaume, en venant, c'est pas anodin, parce qu'en venant, va provoquer un jugement. Le nouveau peuple, ça va être les cabossés, les gens cabossés. Mais si vous êtes sûr de vous, n'ayant besoin de personne et connaissant la vérité, eh bien, le royaume, vous allez passer à côté. Et alors, donc, il va dire au peuple de se convertir. Et il devait avoir un certain charisme, ce Jean-Baptiste, parce qu'il draine une grande foule. Et tellement important que les pharisiens qui sont autour, quand ils voient cette foule, ils se disent, bon, ben, on va y aller quand même, hein, parce que c'est toujours là où va le sens. Ils se sont dit, bon, on va y aller. Et là, il va être très mal reçu par Jean-Baptiste.
Engeance de vipère.
Alors, vas-y, lis ça. Si tu l'as, je ne trouve plus le texte.
Qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
Oui, là, Jean-Baptiste, il insiste sur la conversion du cœur.
C'est ce qu'on justement a fait l'autre jour avec le groupe 3.
Le groupe 3, je sais pas. Oui. Il insiste sur la conversion du cœur. Et comme c'est quand même bien, les pharisiens viennent et là ils se font ramasser par Jean-Baptiste. Mais alors, dans les belles largeurs, on dit engeance de vipère, vous faites semblant de vous venir vous convertir, hein, pour être dans le vent. Hein. Et vous, en fait, vous vous vantez d'être les enfants d'Abraham. Donc, cette composante d'appartenance, vous voyez, que la tentation dans le peuple, c'est de défendre son appartenance et de se valoriser par cette appartenance. Et ce n'était pas rien, l'appartenance, hein, au peuple noir. Donc, les pharisiens plastronnaient, d'une certaine façon, nous sommes issus du peuple élu, donc du peuple de Dieu. Donc, ils appartenaient à... Et là, Jean les renvoie dans les roses engeance de vipères, hein, Dieu peut faire des pierres, peut faire des naîtres des enfants d'Abraham. Cette phrase est terrible par rapport à cette appartenance. Parce que se vanter d'une appartenance, il dit, mais vous réclamez d'enfants d'Abraham, Dieu avec des pierres peut faire des enfants d'Abraham. Vous voyez que là, vous pouvez pas vous approprier. Ça rappellera, ça c'était pour l'aspect ethnique, l'aspect géographique aussi, dans, je n'ai pas lu ces passages, mais ça me revient là, Jésus dira par rapport à la terre, pas Jésus, Moïse dira par rapport à la terre, il y a une promesse de terre. Et cette territoire d'Israël, eh bien, c'est une promesse de Dieu. Mais c'est un don de Dieu. Et ne croyez, ne vous l'appropriez pas. Vous êtes sur ces territoires, mais vous êtes en locataire. Vous n'êtes pas propriétaire de ces territoires. Ça est un don. Il faut reconnaître en tant que don. Donc, si vous voulez, je fais un saut vers l'actualité, mais nos appartenances, à un peuple, eh bien, il faut le prendre comme un don et non pas comme un droit. Nous ne sommes pas propriétaires. On a eu la chance de naître dans un certain contexte qui est plutôt positif, globalement, c'est en fait. Mais c'est un don. Il faut le vivre en tant que don et non pas comme un droit. Donc, ça va changer complètement le comportement. Si c'est un don, ce don doit être partagé, doit être. Et si c'est un droit, eh bien, si on le considère comme un droit, on est dans la défensive et on va être dans le rejet de protection. Ouais. Donc là, ces appartenances ethniques et géographiques, faut bien. C'est le sens un peu de ce passage. Hein. Par rapport à l'ethnie, mais c'est vrai aussi par rapport à la géographie. Donc, engeance de vipère, il les renvoie. Bon, Jean-Baptiste, il n'était pas tendre.
Et Jésus l'a dit aussi, engeance de vipère.
Oui, c'est vrai que Jésus derrière.
Ça fait mais le plus grand jour de l'époque.
Engeance de vipère, c'est vrai ça. Bon.
Pas avoir de couleur.
Merci. Bon, alors donc ce Jésus, ce Jean-Baptiste va annoncer un nouveau royaume et l'arrivée d'un Messie, parce que tout le monde attendait un roi, un roi, et ce roi, c'est le terme de Messie, c'est l'onction. Donc dans le judaïsme pré-évangélique, là. Donc cette notion de Messie était très forte. C'était une attente. Le peuple vivait dans une attente très, très forte pour, justement, pour certains, c'était retrouver un territoire, retrouver un temple. Vous savez, il l'avait un peu retrouvé, mais retrouver un roi, un territoire. Et Jean-Baptiste, là déjà, quand il l'annonce, un royaume, mais il dit, sur le royaume, c'est un royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un royaume des cieux? C'est déjà, alors là, on n'est plus uniquement sur cette terre. Et que ce royaume des cieux, soyez très, très attentifs, dit-il, parce que, en advenant, il va provoquer un jugement. Il va provoquer un jugement parce que les choses vont se casser. Parce que les choses vont être claires. Il va révéler. Donc c'est une révélation. Ce qui était caché depuis la fondation du monde, dira Matthieu, enfin c'est Jésus qui dira, mais va être révélé par un personnage qui va être le Messie. Alors, ce personnage advient, si je puis dire, au moment où Jean faisait les baptêmes, et ce personnage demande à être baptisé. Alors, le baptême, c'était pour la pureté. C'était puisque la loi nous guide vers une conscience et la justice personnelle, d'être juste, une intériorité. Et en fait, dans les faits quotidiens, la pratique quotidienne, on a de multiples occasions de déroger, enfin d'être un peu à l'écart de cette loi. Donc, ils avaient instauré un rite de purification. De purification avec de l'eau. C'était un acte rituel pour montrer que... Et là, Jean annonce que ce personnage va venir, mais qu'il ne va pas baptiser dans l'eau. Il ne va pas baptiser dans l'eau, parce que l'eau, c'est superficiel, hein, mais il va baptiser dans le feu. Dans le feu. Donc le feu, c'est ce qui purifie les métaux lourds, ce qui va au cœur, hein, cette purification majeure, mais le feu, ça brûle, ça fait disparaître toutes les impuretés. Donc, c'est l'annonce quand même d'un événement qui va être, d'une certaine façon, un scandale, dans le sens du mot, ça va une butée, parce que qui va révéler les choses, et va révéler l'intérieur de chacun. Et là, la première chose, ça a été les pharisiens, hein, qui viennent pour se faire baptiser, comme ça, en surface, et en surface, alors qu'ils ont le cœur, une volonté de puissance et une certaine gloriole de leur état, une appropriation de leur statut.